à tous, j'espère que vous allez bien. Bon mardi 4 septembre, de retour à ce rendez-vous hebdomadaire qui me manquait quelque peu. Je suis de nature mélancolique et nostalgique. Tous les mardis midi, on est ensemble pour aimer la vie. Et je ne suis pas seule, Emmanuel Robitaille au micro avec Robert Blondin. Je retrouve mon acolyte, enfin!
Oui, puis le bon côté des choses avec le réchauffement de la planète. On n'aura pas d'hiver, il n'y aura pas d'hiver du tout. On va faire chaud tout l'hiver.
Penses-tu?
Bon, je sais pas, j'en sais absolument rien.
Il paraît
que non, en tout cas.
Bon, il paraît que non, mais il y aura plus de précipitations. C'est un peu plus ça qui va se passer. Comment vas-tu, Robert? J'espère que tu as passé un bel été.
Il va très, 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 très bien. Il est en pleine forme.
Il a fait du voilier?
Comme si j'avais 4 ou 5 semaines depuis jeune.
Ben, c'est déjà ça de gagner. Si tu fais ça chaque été, tu vas finir par te ramasser en coup d'année.
À me ramasser, c'est ça.
Ben, c'est ça. Alors aujourd'hui à l'émission, on parle, comme c'est la rentrée pour plusieurs personnes, on donne des nouvelles sur l'éducation, on fait un petit spécial rentrée. On reçoit également Francine Saillant, commissaire de l'exposition de l'Écomusée du Fier Monde pour l'exposition Inter-reconnaissance, une mémoire citoyenne se raconte. Robert, tu nous fais une petite chronique qui te réjouit également. Tu nous partages
mais là,
ce qui te fait sourire.
Là, tu vas me voir venir parce qu'on est en pleine campagne électorale.
Ah, Seigneur.
Alors, je vais plonger.
Je me prépare. Je me prépare mentalement, physiquement et émotionnellement. Nous avons également des nouveautés cette année ou cet automne à Aime la vie. On aura des collaborateurs qui vont nous aider à aimer la vie, dont François de Beaulieu qui nous propose une chronique « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde », une petite capsule filmée. Good. Également, et on ne passe pas à côté des journées mondiales et internationales de la semaine. Bienvenue à Aime la vie.
Il restait dans le bois le vieux hippie, une place nommée Hardtime Hollow, dans les Blue Ridge Mountains de la Virginie. Jusqu'on entendait ringer le banjo. Il faisait mal à personne avec son fusil. C'était pour épeurer les vilaines bêtes. Il avait bâti lui-même une sorte de logis. Loin de la société, il faisait à sa tête. C'était l'évangile selon Rusty. Un bon job aux yeux d'un homme. Sa barbe blanche. Il était contre les valeurs américaines. Il trouvait qu'on avait tous détraqué, qu'il n'y avait plus rien qui valait la peine, que les enfants d'Astor faisaient pitié. C'était l'évangile selon Rusty. Un bon job aux yeux d'un ange. Il avait l'allure d'un vrai hillbilly. Et la sagesse dans sa barbe blanche. Il était contre tout ce qui est technologie. On allait plus d'urtulant que de l'avant. Il disait qu'on était une gang de zombies, qu'on était rendus esclaves de l'argent. Dans sa barbe blanche.
C'était la chanson Rusty de Daniel Léger, une sortie québécoise musicale de la semaine. Robert, ça t'a évoqué quelque chose?
Mais qui est en concordance totale avec une nouvelle sortie de cette semaine, le nouveau disque de Richard Séguin, qui s'appelle Retour à Waldo. Le Rusty dont on parle dans la chanson qu'on vient d'entendre, c'est dans le fond David Thoreau, qui est un philosophe américain, qui s'est vraiment retiré dans les bois à Waldo, qui est un endroit en Nouvelle-Angleterre, et qui a là vécu uniquement avec la nature comme un ermite, et qui a écrit un livre là-dessus qui est le Waldo, qui est devenu un classique de la philosophie du retour à la nature, si on veut. Ça partait de Jean-Jacques Rousseau avant lui. Donc, la même semaine, t'as cette chanson-là qui est sortie.
T'as Daniel Léger
et celui de Richard Séguin qui est sur ce personnage, le vrai personnage, lui, qui était David Thoreau, philosophe. Formidable.
Mais ça me fait penser parce qu'il paraît que dans la vie ou dans l'univers, il y a la même idée ne peut pas germer chez une seule personne à la fois. Il y a souvent plusieurs personnes sur la planète qui ont la même idée en même temps.
Ça s'appelle le synchronisme.
Et ça s'appelle, entre autres, ça s'appelle la conscience collective. Mais très bien, merci. Et je vais peut-être me procurer ce livre-là parce que le retour à la nature, il est plus que primordial en ces journées de technologie, ces temps, cette ère d'éloignement.
Oui, mais tout seul dans le bois, pas d'Internet, là, c'est beau.
Ah oui?
C'est beau.
Bon, pour un certain temps quand même.
Oh, pas longtemps.
On parle rentrée scolaire parce que plusieurs d'entre vous, que vous soyez enseignants, directeurs d'école, parents d'élèves ou élèves vous-même, vous le vivez pleinement, quotidiennement, actuellement. Et l'éducation, eh bien, c'est pas seulement les mathématiques et le français, l'anglais, les examens et les notes. Non, il y a plusieurs autres façons d'apprendre. J'ai fait un petit tour d'horizon pour nous gâter et en apprendre plus sur la façon d'apprendre. Et sachez qu'il y a l'organisation Adulting Collective qui donne des cours pour les habiletés de base dans la vie. Parce que le constat est le suivant, 30% des étudiants au collège ne savent pas comment faire bouillir un œuf. 52% des adolescents ne savent pas comment changer un pneu crevé. 70% des jeunes ne savent pas comment coudre un bouton. Donc, l'organisation Adulting Collective s'est dit « faudrait peut-être faire quelque chose pour ça ». On nous montre donc des choses de base, soit comment couper un avocat, comment écueillir des fraises, je te jure. Hein? Tes yeux sont parlants, mais c'est vraiment ça. Comment popper une bouteille de champagne en bon français, comment plier le fameux drap contour. Pardon?
Champagne.
Sabrer le champagne, moi j'ai dit popé en bon français. Mais le drap contour, excuse-moi Robert, quelle relation as-tu avec ton drap contour? Moi personnellement, je le prendrais le cours.
Moi je l'aime beaucoup.
Moi en tout cas, je sais pas vous à la maison, si vous avez des trucs, écrivez-nous. Parce que moi actuellement, je suis encore au dépourvu. Alors c'est vraiment génial et ça part tout un combat et un débat et des questionnements à l'intérieur de nous à savoir pourquoi nos jeunes ne savent pas comment faire ça. Premier réflexe de l'homme, c'est bien sûr de lancer le blâme à quelqu'un. On va tout simplement prendre les choses en main et changer les choses. Et c'est ce que l'Adulting Collective fait. Je leur lève mon chapeau. Je trouve ça super intéressant. Au Danemark, on sait comment j'aime ces pays qui prennent de l'avant sur plusieurs systèmes économiques, scolaires, éducationnels, ce qu'on voudra. Saviez-vous que les cours d'empathie étaient obligatoires au Danemark depuis 1993? En fait, c'est le seul pays au monde à enseigner la capacité à ressentir les émotions des autres, à se mettre à la place des autres. Finalement, c'est ce qu'est l'empathie. On enseigne donc l'empathie à défaut d'une heure par semaine. C'est une loi. C'est une loi érigée pour les jeunes entre 6 et 16 ans. Il n'y a aucun devoir, bien sûr. Les élèves, finalement, ils communiquent ensemble, ils écoutent, ils échangent entre eux. Et l'enseignement de l'empathie dans le système d'éducation danois s'inscrit à côté des lois éducatives concernant l'enseignement des limites. Ça c'est bon, ça. Et la sexualité. Et selon Michèle Borba, une psychologue spécialisée dans l'éducation, le manque d'empathie serait provoqué par le narcissisme lui-même, qui lui augmente et qui augmente également le taux de déprime et de dépression chez les jeunes. Le tiers des élèves actuellement déprime, donc c'est une très bonne nouvelle. Et on va en Inde. L'Inde vient de construire, ou est en train plutôt de construire, une école qui se concentre sur l'apprentissage du bonheur. Les enfants y choisissent leur programme d'apprentissage. Il n'y a aucune évaluation des connaissances acquises, bien sûr. Les fondateurs pensent d'ailleurs que les connaissances traditionnelles s'en viennent complètement dépassées, que le système d'éducation actuel néglige le bonheur et l'épanouissement personnel, sans parler de l'intelligence émotionnelle qui, bien que mesurée quelquefois, n'est en aucun cas développée, encouragée ou sollicitée. Les salles de classe y sont remplacées par des salles de méditation. Il y a des laboratoires, non pas pour la chimie, mais pour la création d'idées. C'est fun, hein? Création d'idées et de la discussion pour mieux collaborer. Également, il y a des points de vente où les étudiants pourront bâtir des entreprises. 400 élèves vivront à l'école pendant la semaine et ce, dès son ouverture en 2020. On vient d'entendre Matt Olabowski, la chanson « The King ». Matt Olabowski qui vient de se faire offrir un disque d'or pour son disque « Solitude ». Je tiens à le féliciter en passant parce qu'au Québec, les disques d'or actuellement, c'est plutôt difficile d'en avoir pour un chanteur qui a passé à la voix d'ailleurs, pour un chanteur de télé-réalité qui est absolument tellement talentueux, qui chante en anglais au Québec. C'est digne de mention. Bravo Mathieu. Et parlant du Québec, le Québec, il en a vécu et vécu. Et vécu des choses et ça mérite une exposition. C'est ce que veut faire l'exposition à l'Écomusée du Fiermonde, l'exposition Inter-reconnaissance, une mémoire citoyenne se raconte, exposition qui aura lieu du 6 septembre 2018 au 3 février 2019. Pour nous en parler, on a Francine Saillant, professeure au département d'anthropologie à l'Université Laval et commissaire de l'exposition elle-même. Bonjour, Madame Saillant.
Oui, bonjour madame, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Bien, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous parce que cette exposition, elle a un gros mandat, on va se le dire.
Oui.
Ça veut revisiter un demi-siècle de lutte au Québec.
C'est ça, parce que cette exposition, elle est en fait le fruit dont on pourrait dire d'un grand chantier de mémoire. Hein. C'est un peu ce qui a précédé cette exposition-là, puisqu'il y a une recherche qui est derrière, ce qui signifie beaucoup d'ambition de la part d'une grande équipe de personnes, de groupes communautaires et de témoins, surtout, que les chercheurs ont pu interviewer et dont ils ont pu recenser les propos. À propos de quoi? À propos de la mémoire que ces personnes issues du milieu communautaire et des grands réseaux de ce même milieu pouvaient avoir des luttes sociales au Québec. Dans plusieurs secteurs, hein, notamment celui des femmes, peut-être un peu mieux connu, celui des LGBT plus, celui des personnes handicapées, celui de la migration et aussi celui de la santé mentale. À cela s'est ajouté des artistes qui ont contribué par leur travail à accompagner les grandes luttes sociales depuis 50 ans, effectivement, depuis les années 60. Ces grandes années hein, de lutte sociale qui se sont amorcées avec les années 70, mais qui les courants ont beaucoup changé, ils se sont transformés et on se retrouve aujourd'hui, hein, on s'en souvient au moment du printemps érable, avec des mutations, si on peut dire, des luttes sociales, mais avec des enjeux concernant les droits qui sont extrêmement importants. Donc la mémoire ici, c'est celle d'acteurs témoins qui ont participé très directement aux grandes luttes sociales qui ont marqué les différents secteurs d'action qui étaient visés par le travail de recherche et d'accompagnement, finalement, qui a été celui du milieu communautaire, qui a été partie prenante dans tout ce travail-là. Et l'Écomusée du Fiermonde nous reçoit, en quelque sorte. Et on a eu une très belle occasion de travailler ensemble. Vous m'avez nommé commissaire. Je ne suis pas tout à fait commissaire, mais je faisais partie de l'équipe de travail pour l'élaboration de l'exposition et j'ai dirigé la recherche Inter-reconnaissance.
Mais quand même, vous avez été partie prenante de ce qui a été mis aux yeux du public actuellement. Comment on fait? Est-ce qu'il y a eu des choix à faire?
Ces choix-là, c'est une équipe hein, de travail qui l'a fait avec les chercheurs, avec tout le personnel de l'Écomusée du Fiermonde, avec le milieu communautaire, au fond, dans chaque secteur d'action, effectivement. Il fallait retenir des moments qui sont les plus importants, des images, des événements, des personnes, des organisations. Si on se rappelle, par exemple, la marche du pain et des roses, ça a été un moment extraordinaire, cette marche-là. Elle a donné lieu à toutes sortes d'actions dans le mouvement des femmes qui sont encore qui durent encore aujourd'hui. Eh bien, qui sont les personnes qui ont cette mémoire-là? Mais si on remonte beaucoup plus haut, qui sont les personnes qui ont pu nous parler de la pièce de théâtre « Les filles ont soif » si on prend le milieu des femmes. Mais on pourrait regarder aussi du côté de la santé mentale. Qui sont les personnes qui étaient capables de témoigner des premières fois qu'il y a eu des mobilisations sociales autour de la condition des gens qui ont des gros problèmes de santé mentale et qui étaient enfermés? Alors, toutes les grandes luttes sociales dont on parle, et c'est peut-être l'intérêt en plus du projet Inter-reconnaissance, c'est l'explication d'un tel titre, c'est l'idée de voir que dans chacun des milieux, dans chacun des mouvements, il y a eu des relations, si on peut dire, entre les différents secteurs d'action, les différents secteurs de préoccupation. Vous savez, les droits, c'est pas quelque chose qu'on dissèque n'importe comment. Il y a quelque chose de très unifiant hein, dans la perspective des droits. Et ceux qui ont été considérés comme minoritaires ou qui ont été minorisés, hein, traités comme des minorités, infantilisés, souvent violentés, qui ont vécu finalement dans le temps le passage, hein, d'un statut de personne très minorisée à une personne qui a le droit de parler, qui a le droit d'exister, qui a le droit d'exister telle qu'elle est, avec toute sa réalité.
Donc là, on visite des thèmes comme la solidarité, la dignité, la violence, oui, la marginalisation, la visibilité, tout oui, ce qui est alternatif mis de côté, on le met de l'avant en photo.
Exact.
C'est aussi la possibilité de rencontrer les gens qui ont œuvré au sein de ces combats-là, d'avoir contact avec eux. Je rappelle que ça commence après-demain. Déjà?
C'est tout de suite.
C'est exactement. Donc, c'est du 6 septembre au 3 février 2019. Si on veut en savoir, oui, plus, on peut visiter également le site internet qui est le ecomusée.qc.ca pour avoir l'horaire. On rappelle aux gens également que vous êtes situé au 2050 rue Amherst à l'angle d'Ontario. Madame Saillant, c'est tout, oui, le temps qu'on avait, mais vraiment, c'est une exposition à aller voir, très intéressante et audacieuse. Merci infiniment.
Bienvenue à tous. Au revoir.
Donc, politique peut rimer avec sourire, parfois, dans le cas de Robert, du moins, ça semble être le choix que tu as fait pour ce mardi 4 septembre avec nous, à
LA. Ben, c'est parce qu'on est en pleine campagne électorale,
il paraît,
hein? On peut pas cacher ça.
Il paraît.
Bon. Et bon, mais c'est assez désolant, parfois, ce qu'on entend. Il hein? Y a une espèce de surenchère, là, de séduction.
En tout cas, il y a beaucoup de pancartes.
Il y a beaucoup de pancartes, il y a beaucoup d'attentes, oui, il y a quelques menteries là-dedans.
Et mais où c'est... est ton sourire à travers toutes ces pancartes, ces menteries, ces désolations,
mon cher? La réjouissance vient du fait que, jusqu'à maintenant, le processus électoral en démocratie était très masculin. Et qu'on commence à vouloir, et on insiste, et on cherche des candidates pour pouvoir féminiser, si possible, un peu la politique. Le danger, c'est qu'il ne faudrait pas que ces femmes-là fonctionnent comme des hommes ont fonctionné pour être sûr de monter à l'égalité des hommes, avoir des postes de ministre. Alors, je voudrais simplement rappeler que la façon de faire actuellement est typiquement masculine et qu'il faut peut-être s'en sortir. Alors, ce matin même, j'ai publié dans mon blog un texte, c'est rare, je fais ça ici, là, mais que je veux lire parce que c'est de ce dont on parle. Voici comment ça va. Il faut que la fleur soit belle et sente bon pour qu'elles se reproduisent, avec l'aide dévouée d'insectes travailleurs. Sans la fonction reproductrice, pas de séduction. Comme pour nous, le sens biologique premier de notre pas toujours joyeux passage sur la boule cosmique, c'est de se reproduire. On fait des enfants qui font des enfants et en fera encore plus d'autres, etc. Ce qui est intéressant, c'est de s'ingénier à se faire remarquer par un partenaire. Le processus nous semble de générateur de sens. Moi, ma mère me disait, le plaisir sexuel est là pour compenser les troubles que nous causent des enfants une fois nés. c'est pas très fort. Il faut passer à autre chose. Il y aura un sens au désir et il faut le trouver. Alors, quand nous rêvons de gloire, d'amour, de richesse, nous servons notre instinct de reproduction. Tu penses que je suis en dehors du sujet, mais pas en tout.
Non, je te suis, c'est juste que je
la gloire, hein? La gloire.
J'ai ta mère. OK, continue.
La gloire, pour se faire remarquer, pour sortir du rang. L'amour, pour être choisi et s'attacher l'un ou la partenaire. Les richesses, pour nourrir et éduquer les reproduits jusqu'à leur tour se reproduire. Alors, on voit aussi où arrive la politique. Le terrain idéal pour être fidèle à notre destinée de reproduction, de reproducteur, c'est la politique. On y trouve la nécessaire notoriété, la gloire pour être élu, aimé. Ça peut s'avérer payant pendant et parfois pendant de longues années. Bon. Les politiques sont rares parmi les politiciens. Il y a plus de politiciens. Alors, les Hadrien, Hadrien, c'était cet empereur romain qu'on a dû supplier pour qu'il prenne les rênes du pouvoir. Il ne voulait pas le pouvoir. Et on l'a supplié pour qu'il fasse une bonne job. Il dit, OK, je vais faire juste un mandat, mais je m'en vais après. Ça a été évidemment le meilleur empereur parce qu'il n'a pas voulu la job. Il tenait pas du tout. Il l'a fait gratuitement. Alors, les Hadrien, les désintéressés, n'emplissent pas les autobus de campagne électorale. On est, il n'y en a pas beaucoup, des Hadrien. On entre et on reste en politique pour la gloire, l'amour des autres et le confort des salaires et des fonds de pension. C'est ça qui est le malheur. Qui plus est, on se fait élire pour être réélu. L'électoralisme se répand comme une métastase dans notre système politique. Les sondages nous apprennent les idées, projets sociaux à la mode, les tendances qui augmentent nos chances de devenir députés, ministres. On choisit sa famille politique en fonction de ses chances d'obtenir un mandat majoritaire, ce qui justifie les vire-capots. Voilà pourquoi la campagne québécoise actuelle est en quête de projets, d'idées, de sens. On lance un soi-disant programme électoral comme on lance un leurre en espérant ferrer le poisson. José Legault écrivait, de façon très pertinente la semaine dernière, « La campagne électorale actuelle est le parfait reflet d'une société en quête de sens. » Et le sens, souvent dans la vie, c'est les femmes qui l'apportent. C'est pour ça que je veux en parler. C'est là qu'on peut peut-être se réjouir de l'arrivée des femmes. La politique est devenue un concours de popularité articulé sur les engouements éphémères autour de l'heure socio-économique. Les politiques ailleurs, en quête de séduction et de carrière, bourdonnent autour d'idées de type publicitaire comme des thons et des colibris autour des fleurs électorales. Okay? À preuve, les candidats ne débattent pas d'un projet, mais font des annonces quotidiennes. La course à la médiatisation tient lieu de débats féconds sur des enjeux de société. Pas étonnant que la fatigue électorale, dont parle Denise Bombardier, soit devenue une anémie pernicieuse, souvent incurable d'ailleurs. Les journalistes, en grande majorité, encore une fois très masculins, décrivent maintenant la course au pouvoir comme des analystes de sport, qui gagne, qui perd, qui est en avance, qui est en retard. Tout ça, c'est des choses de sport. Même vocabulaire, gagner, perdre, etc., derrière l'adversaire. Bon. Tandis qu'avec les femmes, si on prenait un univers féminin, on serait dans l'accompli, dans le sens des choses, et ça n'a jamais été fait en politique, sauf dans certains pays qui ont eu des femmes à la tête. Rares. Elles ont existé.
Très rares.
Bon, je pense à Golda Meir en Israël, mais il y en a eu d'autres. Mais souvent, les femmes qui sont montées... Je pense au Pérou, ça n'a pas marché du tout. Parce que quand arrive une femme qui prend les mêmes motivations de type masculine, on arrive aux mêmes résultats qui sont désolants. Alors, il faut arriver à avoir encore plus de femmes pour démasculiniser l'instinct de reproduction qu'on retrouve en politique.
Vous écoutez toujours Aime la vie avec Emmanuel Robitaille et Robert Blondin, mardi 4 septembre. Il est 12h30. À venir à l'émission, la chronique de François de Beaulieu, « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde », « On feel good » et également les journées mondiales et internationales de la semaine.
J'ai la dalle ce soir. J'ai la dalle ce soir. Je boufferai n'importe quoi, même du fond de tiroir.
Je veux tout ce que t'as, surtout t'as.
Pas le temps de m'asseoir. Je m'arrangerai, servez-la moi sur le comptoir.
Sans menu ni couvert ni fade ou épicé, j'en parlerai la bouche pleine. Ou trop léger, je ne serai pas à la peine.
Un regard, une main et chaque fois le même refrain. Souffle chaud, ostinato sur les lèvres.
Je la prendrai à point.
À point. Je la prendrai à point.
Tourner du bout de mes doigts. Tout ce naïveté sans vouloir t'offenser. Tu ne resteras que mon encas.
J'ai la dalle ce soir. Si tu serres mes envies, t'auras un pourboire.
Je suis sûre de moi, tu vas des hop hop.
Pas le temps de m'asseoir. sans plus pouvoir.
Tes feuilles étaient pour mieux te. Ah, la louca chère du moment qu'elle est tendre. Je peux le payer cher, mais je ne veux pas attendre. Je veux déguster lentement, manger en mastiquant. Mastiquant, je fais le régime du camp.
Et la cuisson, c'est comment?
Je la prendrai à point. À point. Je la prendrai à point.
C'était Ellie J avec la chanson La Dalle. Ellie J que je viens de découvrir, Maurice Bolduc à la régie. Maurice, tu me dis que ça se prononce Ellie J, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi un groupe français ne se nommerait pas L.E.J., mettons?
C'était la mode.
C'était la mode?
C'est quelque chose qui est en français en France.
C'est vrai! C'est vrai, puis c'est quand je suis allée en France, à Paris, c'est là où tu vois comme un 24 heures, un service 24 heures, c'est un service non-stop. Écrit comme sur une affiche. C'est, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. En tout cas, bref. Alors, c'était oui, L.E.J. avec la chanson La Dalle. Et il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Ça dépend où l'on regarde. Et François de Beaulieu est quelqu'un qui regarde toujours où c'est beau. Et on collabore avec lui. Je suis très, très heureuse qu'il nous présente ses chroniques, co-reportages qu'il fait sur différentes choses à travers le monde avec des gens avec des initiatives, un grand cœur et qui veulent changer le monde. Et François, aujourd'hui, nous a préparé un reportage extérieur qui parle de Montréal durable. Montréal durable, qui est un projet de 4 ans, 2016 à 2020, avec des initiatives qui veulent bien sûr contribuer au développement durable. L'une des initiatives de ce projet-là, c'est le toit vert d'IGA.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est François de Beaulieu, en ondes avec vous comme chaque semaine pour Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et aujourd'hui, je vous propose de rester à Montréal. Montréal qui aspire à devenir une ville encore plus verte. Avec ses 25 parcs publics, ses 450 km de pistes cyclables, son important système de transport en commun, Montréal veut encore en faire plus, comme on lui reprochait. Bien des villes dans le monde se mobilisent pour réduire leurs émissions de carbone, pour végétaliser immeubles et quartiers. Je pense à Reykjavik, à Copenhague, à Vancouver également. Vancouver avec ses 200 parcs et où 90% de l'énergie provient du soleil, du vent et des marées. Vancouver qui a mis en place un plan écologique qui s'étale sur 100 ans, ce qui en fait certainement la ville la plus ambitieuse sur le plan écologique au monde. Mais revenons à Montréal. La ville s'est elle aussi dotée d'un plan, plus modeste, un plan de 4 ans qui s'intitule Montréal durable 2016-2020. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, avec 1,5 million d'habitants, Montréal est parmi les 10 villes les plus peuplées d'Amérique du Nord. Et bien sûr, les métropoles du monde sont les contributrices majeures à la pollution et donc au changement climatique. Alors, 4 ans pour y remédier, comment est-ce que Montréal va-t-elle s'y prendre? D'abord, la ville voudrait créer encore plus d'espaces verts. Ensuite, la ville cherche à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en employant de nouvelles stratégies de transport, ce qui permettra de ralentir l'augmentation des températures globales moyennes. En troisième lieu, la ville veut promouvoir des quartiers plus accessibles et plus sains pour tous ses habitants. Par exemple, les grands projets de végétalisation à Paris qui apportent des espaces verts sur les murs des habitants, en construisant donc des murs verticaux, saturés de plantes, de légumes, de fleurs aussi, ce qui aide à améliorer la qualité de l'air en ville. Pour ce faire, il faut aussi que les habitants investissent, qu'ils investissent dans le changement, non seulement en ce qui concerne leurs habitudes d'achat, leur manière de vivre, mais aussi dans le temps qu'ils investissent dans leur quartier. Alors voici un bel exemple récent de l'implication d'un acteur économique, celui d'un supermarché d'alimentation. Il s'agit d'un supermarché IGA qui appartient à la famille Duchemin, qui est situé dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal et qui a officiellement inauguré récemment, en juillet dernier, un toit vert. Alors la particularité de ce supermarché fait non seulement de lui qu'il est le tout premier marchand d'alimentation canadien vendant des légumes biologiques qui poussent sur son toit, mais aussi celui qui possède donc le plus grand potager biologique sur son toit au pays, avec 25 000 pieds carrés ou 2300 mètres carrés. C'est aussi le tout premier magasin d'alimentation qui utilise un système d'irrigation provenant de la récupération d'eau à partir de son système de déshumidification. Et finalement, avec ses 25 000 pieds carrés, c'est le plus grand potager biologique sur un toit de supermarché au Canada. Il y poussera plus d'une trentaine de variétés différentes de fruits, de légumes, tous certifiés biologiques par Écocert Canada, avec des salades, des piments, des poivrons, des fines herbes, des tomates et bien plus. Le maintien de la fertilité dans la petite quantité de terreau disponible sur le toit est un gros défi technique, et cela a nécessité donc la création d'un plan de fertilisation adapté par un agronome, en plus du potager, la présence de 8 ruches d'abeilles gérées par une entreprise locale permettront de produire près de 600 pots de miel. Quant au toit, il aura aussi permis de créer 2 emplois à temps plein. Alors que nous dit l'homme derrière le projet, Richard Duchemin, qui est donc l'un des propriétaire du magasin d'alimentation IGA concerné, il nous dit ceci. Le toit vert potager nous permet non seulement de cultiver notre passion pour la nourriture, mais également de réaliser le tout dans le plus grand souci de l'environnement, et c'est un aspect qui nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes heureux de réaliser ce projet, un projet novateur, et nous espérons qu'il pourra inciter d'autres entreprises à emboîter le pas. Alors, je vous rassure tout de suite, cette chronique n'est pas commanditée par le groupe IGA, mais je voulais donner un coup de projecteur à une belle initiative, une belle réalisation qui va dans le sens d'une alimentation de qualité, abordable, avec un circuit court. Une belle réalisation qui illustre que Montréal poursuit son chemin d'une ville encore plus verte, mais aussi une réalisation qui pourrait inspirer d'autres acteurs économiques locaux. C'était « Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde », et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.
Hey, bouge, j'ai du taf à faire. Le rap casse la tête, soit être là, pas me taire. Si on me trouve, faut que j'ai pas de sang tête. Les yeux rouges de son proche par terre, tout déchiré. Yeah. Elle est si belle quand j'y passe la taille. Sourire en compte sirène, c'est l'extase, ça me plaît. Je dois faire grimper les décibels, elle me repasse la taille, je suis déchiré.
Le soubresaut du cœur valsant à l'année longue. Amour, la pluie, le tonnerre, quand il s'épanouit en vague de chaleur. L'attentat succès, la ferme en prise du présent. Coccinelle en libellule, le cerveau, aux éléments. Ben tourbillon de rêve, une trêve après la guerre. Ma lune de tangerine saignée longtemps pour la peine. Semer les rodés en toute immobilité. À deux doigts de goûter la vie de l'os, c'est détaché.
Éclairé par un moonlight, on start la braise avec le journal. Run mon chum, vas-y cours loin. Summer hustle contre le courant. Sopa vida, hot dog, pot au sauce, plein le belly. Mais j'ai passé toute la nuit à vivre la vie d'une libellule. Tempo libéré tant que les pulsions sont libérées. Tant qu'on pourrait voir que faut, j'continue de dire qu'on est béni. Travail on est bénis, feedback seront bénis. Crier toute mon âme si j'en veux plus, ça me guette. Frérot, I'm a get it. Frérot, I'm a get it. Sur ce good love en book, on est ready pour les Guinness. Éclairé par un moonlight, on start la braise avec le journal. Run mon chum, vas-y cours loin. Hit the road sur un coup de tête. Yeah, ouais. Perds-moi dans tes fossettes. Comment faire exploser ce rap? Mon cœur suit jamais le faussaire. Non, non, non. Y'a que les tarés qui changent pas de manière. Faut se décider, faudrait se tailler. J'suis en âge de la veine. Fucking carré prise dans le fossé. J'veux des grosses scènes. Ouais, ouais, ouais.
C'était Tangerine de LAF, une autre sortie de la semaine au Québec. Chose que j'ai découvert et que j'aime particulièrement. J'ai découvert beaucoup de choses cette semaine, en fait, hein, by the way.
T'as écouté beaucoup de musique?
Eh bien, c'est pas mal une de mes activités préférées, on va se le dire. Et
À quoi tu ressembles quand t'écoutes de la musique?
Parce que il sait, chers auditeurs, il le sait tellement à quel point je suis interactive. Je tape des mains, je danse, puis je fais du lip-sync, ou des fois je chante, mais je suis vraiment un bon public.
J'applaudis.
Oui, oui. Non, mais vraiment. Puis des fois, je pleure un peu parce que je trouve ça bon. Des fois, ça va jusque-là. En tout cas, parlant de musique. Parlant de musique et parlant de mon public, parlant d'aimer ça, cette petite capsule Feel Good se veut vous faire découvrir des choses qui nous font nous sentir bien. Et aujourd'hui, je me propose, je me lance à l'eau, je me sacrifie, méchant sacrifice, on a vu pire, pour vous partager en fait des choses qui me font me sentir bien dans la vie, en espérant vous inspirer, que vous l'essayez et que vous vous sentiez bien à votre tour. À commencer par un film. Moi, ce film-là, je l'écoute depuis que j'ai 10 ans. C'est un film de 1995. Ça vous donne une idée de mon âge si vous calculez rapidement. Et ça s'appelle « La petite princesse ». Un film du... ris pas. Robert, ris pas de moi.
Non, c'est un rictus que j'ai...
Si j'ai des tics faciaux. C'est ça. Ça s'appelle La petite princesse du réalisateur Alfonso Cuarón. C'est un film qui se passe en 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale. C'est une jeune fille qui est née en Inde et qui est transportée au Royaume-Uni où l'armée anglaise part en guerre, bien sûr, dont son père qui la place dans un orphelinat. Et comble de malheur, elle est passée de cette jeune fille très, très comblée, avec une place spéciale dans cet orphelinat, à une orpheline. C'était une orpheline, elle est devenue servante, et on voit à travers ce passage-là, peu importe le rôle qu'elle a dans ce film-là, Elle a une philosophie, une maturité, une sagesse pour une petite enfant d'à peu près 8 ans. Elle se lie d'amitié avec des gens qu'elle ne devrait pas. Elle apprend, elle remet à sa place des personnages qu'on haït et qu'on veut haïr dans ce film-là. Et elle rapporte à toutes ces jeunes filles qui sont avec elle des récits de l'Inde qui font du bien. On en écoute un extrait.
Il y a très longtemps, vivait une magnifique princesse dans un pays mystique qui s'appelait l'Inde. Elle était mariée au beau prince Rama qui avait été banni et exilée dans la forêt enchantée par sa jalouse belle-mère, la reine Kaikeyi. Un jour, la princesse Sita aperçut un daim blessé dans les bois et elle supplia Rama d'aller à son secours. Rama traça un cercle dans le sol et lui dit « Ceci est un cercle magique. Aussi longtemps que tu resteras à l'intérieur, aucun malheur ne pourra t'arriver. » Cette nuit-là, la princesse entendit un cri horrible.
« Ah ! Aidez-moi !»
Pensant que son bien-aimé Rama était en danger, la princesse se précipita hors du cercle pour répondre à ce cri. Bientôt, elle croisa la route d'un vieux mendiant. Bien qu'elle n'eût pas d'argent à lui donner, elle ne put résister à sa demande. Mais dès qu'il fut en possession du bracelet, le mendiant soudain se changea en un affreux monstre à 10 têtes, le démon Ravana. Il empoigna la belle princesse et l'entraîna dans son palais où il avait l'intention d'en faire sa femme.
As-tu déjà rencontré un vrai prince, Maya ?
Oui. Et c'était le père de Lucky.
Je croyais qu'il était dans l'armée.
C'est vrai. Et cet homme était mon prince. Et j'étais sa princesse.
Mais je parle de vrais princes et de vraies princesses.
Toutes les femmes sont des princesses. C'est notre privilège.
Toutes les femmes sont des princesses. C'est notre privilège. Et je souhaite que toutes les petites filles de ce monde naissent avec cette phrase. Et donc... pour la philosophie, la beauté de ce film-là, les bruits de pas sur le plancher de bois, le bruitage du film me fait de l'effet. Je vous rappelle que c'est La Petite Princesse, un film de 1995. Je vous le conseille fortement. Et bien sûr, une chanson qui me fait me sentir bien, c'est une chanson de Meg Mac, une chanteuse australienne qui est très, très, très peu connue. Je partage la bonne nouvelle, justement. Et la chanson s'appelle Roll Up Your Sleeves. Ça reflète l'idée qu'il faut continuer. Roll Up Your Sleeves, c'est relève tes manches et continue sur des accords piano, mais gospel, mais qui restent très, très, très pop. Pour la désinvolture de la chanson, c'est très actuel. C'est pour la recherche musicale qui mélange... légèreté et profondeur. En tout cas, pour moi, ça fonctionne énormément. Il y a des claps là-dedans. Moi, je capote ces claps. Je capote ces chorales. J'aime tout ce qui est là-dedans. Et en même temps, ça nous permet de foncer tout en étant un peu je m'en fous. C'est merveilleux.
Face to face, it's looking right back at me. It's easier to leave it, oh. It's easier to fake it, oh. Ooh, 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 ooh
Les journées mondiales et internationales de cette semaine, 4 au 10 septembre 2018. Chaque jour est une niche pour une célébration ou une cause, on ne sait pas, quelconque. Pas tous les jours, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Cette semaine, on en fête plusieurs, à commencer par demain, qui est la Journée internationale de la charité. Oui, ta face, la mienne, et donc, je ne savais pas non plus que ça existait, Robert. Je ne sais pas si vous saviez à la maison, mais oui, c'est demain, la Journée internationale de la charité. On parle encore de développement durable ici, entre autres via le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en septembre 2015.
En fait, les mots ont changé. Quand on parle de charité, c'est la solidarité internationale, la solidarité avec les morts.
Mon Dieu que t'es wise.
C'est parce que c'était un mot qu'on oubliait
complètement.
T'es
brillant.
Pas vraiment, mais...
quel homme brillant.
Non, mais c'est rare qu'on entend un vieux mot comme ça qui revient.
T'sais. Ben, c'est un petit...
C'est comme l'ail des bois, ça pousse pas souvent.
C'est très religieux. C'est très associé à la religion, je crois, finalement. On parle de philanthropie. T'sais, on se regarde, donner, oublions pas les plus démunis, ceux qui en ont besoin. Et demain, ben, c'est une bonne journée pour prendre des initiatives par rapport à ça. Et cette date-là n'est pas laissée au hasard. Ça coïncide avec la date du décès de feu Mère Teresa de Calcutta, qui est décédée cette journée-là en 97 et qui a passé sa vie, finalement, à redonner aux autres. Donc, c'était pour le 5 septembre, la Journée internationale de la charité, philanthropie / solidarité mondiale. Le 8 septembre, Journée mondiale de la physiothérapie, une pratique que l'on doit, en tout cas les techniques de la physiothérapie, on les doit à Sœur Elizabeth Kenny, une Australienne qui a travaillé au principe de réadaptation des muscles au Queensland vers 1910 pour faire le transfert de ses connaissances aux États-Unis autour de 1940, on profite du 8 septembre pour faire connaître les professions de physiothérapeute et aussi de kinésiologue qu'on connaît peut-être un petit peu moins, et ça depuis 2008. Le 8 septembre également est la Journée internationale de l'alphabétisation, chapeautée par l'UNESCO. Cette année, c'est célébré sous le thème « Alphabétisation et développement des compétences ». Concrètement, il en relèvera de la persistance des problèmes d'alphabétisation malgré les progrès qu'on a réalisés à l'égard de cette problématique-là, parce que les compétences au travail continuent, elles, d'augmenter rapidement. On a de la difficulté à aller créer l'équilibre à travers ça. Actuellement, en chiffres, c'est aujourd'hui une personne sur sept qui est illettrée, et de ces 860 millions de personnes, près du deux tiers, soit 500 millions, sont des femmes. Et je veux absolument vous parler du 10 septembre, la Journée mondiale de prévention du suicide, et l'Association québécoise de la prévention du suicide nous rappelle que pour cette 16e édition de cette journée préventive, on aura pour thème « Travaillons ensemble pour prévenir le suicide ». On nous invite également à allumer une chandelle en appui à la cause, en soutien aux nombreux endeuillés par le suicide, ou encore en souvenir d'un être cher. On en profite également pour dire que depuis 2010, ce sont 20 000 intervenants qui se sont vus formés, en fait, en prévention du suicide. Ces intervenants-là sont partout, en milieu hospitalier, scolaire, en milieu de travail également. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à composer le 1-866-APPEL. C'était les Journées mondiales et internationales de cette semaine. C'est presque tout pour nous, pour aujourd'hui, Robert.
Ben, je voudrais revenir sur un truc, moi. IGA, avec son toit formidable, de tout vert, là.
Oui, tout vert.
Super bien. D'autant plus que si toutes les épiceries faisaient ça, ce serait payant, parce que ces légumes-là, ils peuvent les vendre juste en bas.
Bien, c'est ce qu'ils font, en fait.
Mais c'est bien. C'est, ça ajoute à leur revenu. Puis en même temps, c'est un geste d'écologie intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai une petite anecdote amusante pour toi quand tu parlais du bruitage de ces films, etc. Des beaux bruits de pas.
Les bruits d'auto, oui, en tout cas.
J'ai enseigné un certain temps à l'École nationale de théâtre pour la réalisation dramatique radio. Et j'avais des étudiants qui écrivaient des textes, et à un moment donné, il y en a un qui m'a... Dans son texte, je donne ça au bruiteur pour qu'on puisse le faire, c'était « Bruit d'un loup qui recule et ayant peur ». Ça sert à de faire ça.
On va y souhaiter un gros bonne chance sur ça. Merci Robert Blondin pour ces anecdotes, toujours très drôles. Merci Maurice Bolduc à la régie, Clotilde Seille à la réalisation, et on se donne rendez-vous mardi prochain, midi, sur le Canal M.